Passer en vue l'actualité judiciaire de 2023. Il est vrai qu'un procès a dominé cette année, c'est celui des attentats du 22 mars 2016. Le plus grand procès d'assises jamais organisé en Belgique, 7 ans après les faits. 10 hommes, Mélanie, étaient donc sur le banc des accusés.
Oui, alors rappelons d'abord brièvement que ce procès avait très mal commencé. Il y a d'abord eu le problème des box des accusés, petites cellules vitrées individuelles où les accusés étaient isolés de leurs avocats. La présidente a finalement, après moult discussions, ordonné leur destruction pour privilégier un seul grand box où les accusés pouvaient facilement échanger avec leurs avocats et avec les autres accusés. Mmh. Il y a ensuite eu le problème des fouilles à nu avec génuflexion. Alors avant chaque départ de la prison vers la cour d'assises, les accusés devaient se mettre à nu et effectuer une génuflexion, une manière de vérifier qu'ils n'avaient rien de caché sur eux. En signe de protestation, les accusés ont refusé pendant plusieurs jours de comparaître. Leurs avocats ont tout fait pour mettre fin à cette pratique et ont finalement obtenu gain de cause.
Vous le dites, hein, ce procès avait donc très mal commencé, mais au final, il s'est terminé le 15 septembre et tous les accusés ont-ils été reconnus coupables ?
Alors, 2 accusés ont été acquittés, mais les 8 ouais. autres, dont Salah Abdeslam et Mohamed Abrini, ont été reconnus coupables. Quant aux peines infligées, il y a eu là aussi de longs débats et très techniques cette fois-ci. Pour les avocats de la défense, le droit belge ne permet pas de condamner 2 fois à la peine maximale. La cour a suivi ce raisonnement et rappelez-vous, Salah Abdeslam a déjà été condamné à la peine maximale à Paris, c'est-à-dire la perpétuité incompressible. Il ne s'est donc pas vu infliger une nouvelle peine à Bruxelles, la cour a renvoyé vers une condamnation antérieure, celle pour la fusillade de la rue d'Idriss, parce qu'il faut une peine belge, et là il avait été condamné à 20 ans de prison, soit le maximum pour ses faits. Le droit est ainsi respecté, et ça ne change finalement pas grand-chose au sort de Salah Abdeslam. Il a très peu de chances de sortir un jour de prison.
Alors si on résume, Mélanie, le procès a pu se dérouler sereinement, jusqu'à son terme. Les victimes ont pu aussi s'exprimer longuement. La plupart des accusés ont été condamnés. Est-ce que tout est bien qui finit bien ?
Alors, il est évidemment difficile de répondre à cette question. Après avoir écouté des dizaines de témoignages de victimes et de proches de victimes pendant 1 mois, moi, ce que je retiens, c'est énormément de tristesse et de souffrance, des deuils impossibles à faire, tant le sentiment d'injustice face au terrorisme est grand. On doit aussi retenir ces personnes qui ont offert un pardon aux accusés et certains de ces accusés qui ont effectué un chemin vers les victimes en leur présentant à leur tour des excuses. Alors cela dit, les victimes ont encore un long chemin devant elles, un chemin pour se reconstruire psychologiquement et physiquement, mais aussi un combat à mener vis-à-vis des assurances. C'est clairement l'accusé bonus, si je peux m'exprimer ainsi, dans ce procès. Dans de nombreux témoignages, si pas dans tous les témoignages, les assurances et les médecins experts ont été pointés du doigt pour leur manque d'humanité.
Allez, premier événement clé donc de cette année judiciaire. Un autre procès a aussi occupé une grande place dans l'actualité judiciaire du pays, surtout en Flandre, mais aussi évidemment côté francophone. C'est l'affaire Santadia, du nom de cet étudiant de la KU Leuven, qui est décédé au cours de son baptême, particulièrement musclé, Mélanie. Revenons d'abord sur le déroulé de ce baptême.
Oui, alors le baptême se déroule sur 3 jours, les 3, 4 et 5 décembre 2018. Les premières activités se font à Louvain. De grandes quantités d'alcool sont ingérées, de grandes, des énormes même quantités d'alcool. Les candidats au baptême sont ensuite ramenés à leur cote et ont l'interdiction de boire de l'eau. Les maîtres de baptême ont scellé les robinets avec du papier collant. L'étape finale se passe dans une cabane à Vorselaar. Les baptisés doivent creuser un trou et y rester. On est donc en plein mois de décembre. Des seaux d'eau froide leur sont jetés dessus, on leur urine dessus. Ils doivent manger de la nourriture pour chien et chat, mais aussi une souris qui a été passée au mixeur. Et finalement, ils doivent boire de l'huile de poisson dont la teneur en sel est extrêmement élevée. Après cette épreuve, l'état de santé de Santadia s'est fortement dégradé. Lorsqu'il est enfin déposé à l'hôpital, la température corporelle du jeune homme n'est que de 27 degrés. Il décède 3 jours plus tard d'hypothermie et d'un œdème cérébral.
Alors après un long parcours judiciaire, les responsables de ce baptême se sont retrouvés devant la justice. Le procès s'est donc terminé en mai dernier.
Oui, c'était devant la cour d'appel d'Anvers. Il y avait 18 ouais. jeunes hommes. Ils ont tous été condamnés, reconnus coupables d'homicide involontaire, de traitement dégradant et d'infraction à la législation sur le bien-être animal. Par contre, ils ont tous été acquittés pour avoir administré une substance nocive ayant entraîné la mort. Pour la Cour, ces jeunes ne pouvaient pas connaître le risque de faire boire de l'huile de poisson. Ce n'est pas écrit sur l'étiquette du bidon d'huile et il n'y a pas vraiment de consensus au niveau médical sur les quantités qui pourraient être considérées comme toxiques. Quant aux peines, eh bien les 18 prévenus ont été condamnés à entre 200 et 300 heures de travaux d'intérêt général et à une amende de 400 euros.
Et cette décision du juge de la Cour d'appel a été fortement critiquée, Mélanie. Elle a en effet été jugée trop clémente.
Oui, trop clémente, trop légère. Dans ce dossier, deux éléments ont suscité de vives réactions. D'une part, une peine d'intérêt général ne figure pas dans le casier judiciaire. C'est très important de le signifier oui. parce que ces jeunes vont donc pouvoir vivre leur vie normalement sans que cet épisode n'entache leur avenir. D'autre part, l'anonymat de l'ensemble des prévenus a été maintenu tout au long du procès et même après la condamnation. Aucun nom, aucune photo n'a été diffusée par les médias officiels. Les médias flamands et francophones n'ont rien publié. Les médias flamands se sont même justifiés. Aucune peine de prison n'a été prononcée. Ces jeunes hommes doivent donc pouvoir se réinsérer dans la société. Leur anonymat doit être maintenu. Résultat, eh bien, certains ont parlé de justice de classe. La victime est un jeune homme noir. Ses bourreaux, des jeunes de bonne famille dont les parents occupent des fonctions importantes dans la société. Plusieurs manifestations ont eu lieu à Gand, Anvers, à Celt, mais aussi à Bruxelles.
Et du côté de la famille de Santa Dia, quelle a été la réaction donc face à ces condamnations ?
Alors pour le papa de Santa Dia, c'était un soulagement que les 18 membres du cercle aient tous été condamnés. Ils n'avaient jamais demandé de peine de prison, mais ils voulaient obtenir des réponses. Et sur ce point, eh bien, il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Écoutez son avocat Sven Marie, son interview a été réalisée quelques minutes après le prononcé des peines.
Il y a dans un premier temps, dans le chef de la famille, un soulagement parce qu'ils ont été condamnés. Après, dans le cadre de produits qui ont été donnés comme l'huile de poisson, ils ont été acquittés. Monsieur Dia reste avec bon nombre de questions. Cette tristesse restera à tout jamais, tout comme les questions ne partiront jamais.
Alors même si cette condamnation a suscité beaucoup de réactions, la famille de Santa Dia a décidé de ne pas se pourvoir en cassation. Ce dossier est donc définitivement clos.
Passons donc à une autre actualité plus récente. Il s'agit de l'attentat terroriste mené dans le centre de Bruxelles le 16 octobre dernier et qui a coûté la vie à deux supporters de football suédois.
Oui, il est 19h15 le 16 octobre dernier quand un homme avec une veste orange fluo abat froidement deux supporters de foot suédois sur la place Sanctelette à Bruxelles. Très vite, une vidéo de l'attaque circule sur les réseaux sociaux ainsi qu'une vidéo de revendication filmée par l'auteur de l'attaque. Dans cette vidéo, l'homme annonce avoir tué des suédois et se revendique de l'État islamique. Alors l'OCAM, l'organe de coordination pour l'analyse de la menace, décide très vite de relever le niveau de la menace à 4 pour Bruxelles, soit le niveau le plus élevé, et à 3 pour le reste du territoire. La chasse à l'homme va durer toute la nuit et se prolonger jusqu'au lendemain matin. Avant 8h, un témoin appelle la police après avoir repéré le terroriste dans un snack. La police descend sur place et le neutralise. Il décède sur le trajet entre ce lieu et l'hôpital.
Alors Mélanie, après cet attentat, les révélations ont été nombreuses. Elles ont montré différents dysfonctionnements au niveau de la justice bruxelloise.
Oui, effectivement, l'attentat a eu lieu un lundi soir oui. et le vendredi soir, après de nouvelles informations, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, annonce sa démission. Écoutez.
En tant que ministre de la Justice, je ne peux en aucun cas démissionner dans les décisions d'un magistrat. Et bien qu'il s'agisse ici d'un travail d'un magistrat individuel indépendant, je tiens malgré tout à assumer la responsabilité de cette erreur inacceptable. Je ne cherche absolument aucun prétexte. Je ne cherche aucune excuse.
Alors le ministre de la Justice parle d'une erreur inacceptable. Pour comprendre, il faut évoquer le parcours du terroriste. Abdesalem Lassoued est originaire de Tunisie où il a été condamné à une lourde peine de prison en 2005. Pendant le printemps arabe en 2011, il s'enfuit et se rend en Italie, puis en Norvège où il dépose une demande d'asile qui lui est refusée. Quelques années plus tard, en 2019, il dépose une demande d'asile en Belgique qui lui est aussi refusée. Il est alors sous le coup d'un ordre de quitter le territoire, mais il disparaît des radars. Le 15 août 2022, la Tunisie envoie une demande d'extradition à la Belgique. Celle-ci est transmise au parquet de Bruxelles. Sur les 31 demandes d'extradition qui sont arrivées cette année-là, 30 sont traitées, sauf celle-ci, celle qui concerne Abdeslam Lassouede.
Après cette démission, est-ce que le parquet de Bruxelles a fourni des explications supplémentaires sur cette erreur qui a coûté très cher ?
Alors, pas vraiment. Le parquet de Bruxelles s'est limité à dire que ce dossier avait été oublié dans une armoire et a rappelé le sous-effectif chronique dans ses rangs. Le cadre prévoit 119 personnes, mais en réalité 95 personnes composent ce cadre. Et sur ces 95 personnes, 82 seulement sont réellement présentes, les autres sont en maladie.
À ce stade, où en est l'enquête, Mélanie, sur cet attentat en tant que tel ?
Alors, des perquisitions ont été menées à Tongres et à Tervuren. Un homme d'origine tunisienne, comme le terroriste, a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir un lien avec la fourniture de l'arme utilisée par Abdeslam Lassouede. Il a été inculpé d'assassinat et de tentative d'assassinat dans un contexte terroriste, ainsi que de participation aux activités d'un groupe terroriste. Ça, c'est pour le volet belge. En France, des personnes ont également été arrêtées et inculpées, 4 personnes du côté de Paris.
Voilà pour cette année judiciaire qui a, on l'entend, été très riche. Est-ce qu'il y a des dossiers, Mélanie, qu'il va falloir tenir à l'œil l'année prochaine ?
Oui, c'est un dossier qui prend chaque année un peu plus d'ampleur. Oui. C'est celui du trafic de drogue dans notre pays. Cette année encore, les douanes vont annoncer un record en termes de saisie de cocaïne au port d'Anvers. En 2022, 110 tonnes avaient été saisies et cette année, on sait que ce chiffre va encore être dépassé. Alors, ce qui inquiète les douanes actuellement, ce sont les opérations menées par les bandes criminelles pour tenter de récupérer les cargaisons saisies. Ce sont des sommes astronomiques d'argent qui sont en jeu et les criminels n'hésitent donc plus à poursuivre les douaniers en étant eux-mêmes lourdement armés. Écoutez, l'administrateur général des douanes, Christian Van der Warren, il demande des moyens supplémentaires et une priorité pour la destruction des drogues saisies.
Étant donné la situation, l'agressivité des organisations criminelles à Anvers, non, je n'ai pas suffisamment de gens. C'est la raison pour laquelle aussi que j'ai fait appel à la police fédérale. Ils nous soutiennent afin de sécuriser mes gens quand ils sont en train de manipuler la drogue.
Alors parallèlement, un gros procès drogue s'est ouvert juste avant le début des vacances, oui, devant le tribunal correctionnel de Bruxelles. Il s'agit du procès qu'on a appelé Encro, du nom d'une messagerie cryptée, EncroChat. C'est grâce au décryptage de cette messagerie ainsi que de la messagerie SkyICC que la police a mis à jour un vaste réseau de trafic de drogue. La cocaïne était importée depuis l'Amérique du Sud via des bateaux ou des jets privés. Elle était ensuite extraite et reconditionnée dans des laboratoires bruxellois avant d'être réexpédié à travers l'Europe dans des véhicules à la James Bond qui disposent de caches sophistiqués. 129 personnes sont jugées par le tribunal correctionnel. Ce procès devrait durer 4 à 5 mois.
Voilà, il marquera sans doute aussi l'année 2024. Merci Mélanie Jory.